Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
C'est vrai que le fait de se manifester, en fait, de faire entendre sa voix, tout de suite, ça prend une autre dimension et tu te sens plus légitime et tu sens que tu gardes le contrôle sur ton corps et que ça appartient pas à quelqu'un d'autre.
Dans l'interview de cette semaine, je reçois Isaline derrière le micro de Bouteille à la mer pour discuter de son parcours. Nous abordons ensemble son rapport au corps qui a été parfois compliqué, ses ressentis face à la pression de la société pour entrer dans certains schémas de vie. Nous parlons également de la dépression qu'elle a traversée et de ce qui lui a permis de se relever aujourd'hui. Dans cet épisode, nous aborderons aussi un sujet qui peut être sensible puisqu'Isaline a souhaité témoigner d'un viol conjugal qu'elle a subi. Si c'est un sujet qui heurte ta sensibilité, sache qu'un avertissement sera fait avant qu'on en parle. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Vous écoutez Bouteille à la mer. Écoutez, Bouteille à la mer. Bonjour et bienvenue Isaline, merci beaucoup de venir sur le podcast, merci de m'accorder ta confiance pour parler de ton histoire aussi. Je vais te laisser te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas.
Mais écoute, bonjour Mathilde, merci à toi d'avoir accepté de m'inviter. Je m'appelle Isaline, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je suis... Je suis anciennement étudiante et en attente de pouvoir réaliser un projet qui me tient à cœur.
Et on va parler un petit peu de tout ça aussi au cours de l'interview. Donc, je le répète pour les personnes qui seraient peut-être pas familières avec le podcast, le but de l'interview, c'est vraiment de parler de toi, de parler un petit peu de toutes les étapes de ta vie, de tout ce que tu as traversé. Et puis, on commence par le début, forcément, on commence par l'enfance. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de comment tu étais, toi, enfant ? Quels souvenirs tu as de cette période ? Quel genre d'enfant t'étais ?
J'ai une bonne souvenir de cette période, malgré le fait que j'ai pas forcément énormément de souvenirs. C'est un peu contradictoire, mais ouais, je garde quand même un bon souvenir. Une enfant plutôt solitaire par la force des choses, parce que j'avais un grand frère et une grande sœur, mais qui étaient déjà partis de la maison. Okay. Et puis pas forcément... très sociable, mais je garde un bon souvenir de ça. Avec pour moi, quand je vois mon enfance, c'est un peu genre le jardin avec le soleil l'été, les chats, les fleurs et tranquille en fait.
Ah, c'était une enfance assez calme du coup.
Ouais, plutôt calme en campagne, mais où je pouvais faire en fait ce que je voulais. J'étais pas bridée quoi. C'était cool. Je pouvais poser plein de questions à mes parents sur plein de sujets différents et donc ça m'a enrichie en fait dès très jeune.
Et d'ailleurs, par rapport à tes parents, est-ce que tu as, ou même de manière générale par rapport à ton éducation, est-ce que tu as le sentiment d'avoir une éducation pour filles, une éducation genrée ou pas ?
Alors, pas du tout, parce qu'en fait, quand je suis née, déjà mon père voulait pas du tout d'enfant. Et au final, ma mère a réussi à le convaincre. Parce que oui, j'ai des frères et sœurs, mais on n'a pas le même père. Donc du coup, ma mère a réussi à convaincre mon père d'avoir un enfant, et à partir de ce moment-là, en fait, il a décidé de s'occuper à moi à 100%. Donc c'est ma mère qui allait bosser, et c'est mon père qui m'a gardée, parce qu'il était au chômage. Donc j'ai plutôt l'impression d'avoir eu une éducation absolument pas genrée, où je pouvais faire ce que je voulais, du fait notamment que j'ai été éduquée par mon père.
D'accord. Ça ressort vraiment cette idée de liberté, j'ai l'impression, dans ton enfance. T'as vraiment ce sentiment-là que t'étais vraiment pas bridée
Non, du tout. J'ai vraiment le sentiment de... d'avoir pu faire mes propres expériences et d'avoir tout tenté, de justement pas avoir été gênée par cette barrière du genre, en fait, où on va te dire en tant que petite fille, non, va pas courir, non, va pas te mettre dans la boue, ou ce genre de choses, quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est un peu le problème. Moi, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que je trouve que en tant que petite fille, souvent, on a cette idée de c'est la princesse, il faut qu'elle fasse attention. Et alors que le petit garçon, à l'inverse, malheureusement, hein, c'est aussi le truc de... c'est l'aventurier, s'il tombe, c'est pas grave. Tu vois, il y a ce truc-là. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Et c'est cool que, du coup, t'aies pas eu ce sentiment d'être bridée comme on pourrait l'imaginer pour une petite fille.
Ouais, je suis contente aussi d'avoir été éduquée comme ça. Parce que, du coup, c'était chouette. T'as tout un horizon qui s'offre à toi. Et je pense que quand t'as une éducation genrée, c'est pas forcément possible pour toi, en fait. Parce que, tout de suite, t'es bridée. Ou alors, même en tant que petit garçon, tu dois peut-être sentir la différence aussi et te dire pourquoi elles peuvent pas le faire et moi, oui. Enfin, tu dois te questionner aussi.
Est-ce que ça, c'est un sentiment qui a perduré aussi dans l'adolescence? Ce truc d'être assez libre et tout ça?
Alors, quand même. Globalement, oui. Même si, au final, le regard des autres est arrivé assez tôt sur moi.
D'accord.
Et tu t'auto-brides, en fait. C'est pas par rapport à tes parents, c'est plus par rapport au regard de la société et des autres. Même si j'ai toujours tenté de passer au-dessus. C'est pas toujours facile, mais je me suis toujours dit, bon, ça te bloque, mais c'est pas grave, ça te bloque maintenant, ça te bloquera pas plus tard, et puis continue d'être toi-même, de faire ce que tu veux, et puis ça le fera. Là où j'ai senti que j'étais peut-être un peu plus bloquée, c'est que mon père est mort quand j'avais 14 ans, et à partir de ce moment-là, j'ai vécu seule avec ma mère, donc seule avec une autre femme qui était beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus stressée.
D'accord.
Et donc c'est là où j'ai pu sentir en fait vraiment peut-être un peu plus une contrainte de genre, on va dire.
Et comment tu l'as vécu, du coup, ton adolescence, notamment avec ce deuil qui a pas dû être simple à gérer à 14 ans?
Au final, sur le coup, ça a été compliqué, mais pas trop quand même. C'est un peu bizarre, ça a été dur sur le coup. J'ai pleuré pendant plusieurs mois, mais je pleurais seule. Je voulais pas le montrer à ma mère, à ma famille, pour pas les rendre encore plus tristes. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait mon deuil quasiment 3-4 mois après. En fait, j'étais toujours la même, il n'y avait plus rien qui m'atteignait. Et au final, ça a ressurgi à mon entrée en fac, en fait, un ou deux ans après mon entrée en fac, où c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, non, en fait, le deuil est pas réglé.
Mais on va en reparler de toute façon de tout ça. Donc on va garder ce sujet un petit peu pour après. J'aimerais bien te demander comment ça s'est passé pour toi, le rapport au corps à l'adolescence.
Alors j'ai eu des ennuis de santé, en fait, donc du coup le médecin disait toujours depuis toute petite de pas manger trop de sucre, pas manger ceci, pas manger cela, et je mangeais énormément de légumes et tout, et en fait pour favoriser en fait mon transit ou que mon corps soit en meilleure santé, enfin ce genre de choses, et au final ça n'a rien changé sur ma santé.
D'accord.
Et donc le fait d'entendre dès toute petite fais attention à ce que tu manges, prends pas de poids, faudrait que tu fasses du sport, au final, arrivé à l'adolescence, c'est là où moi je m'en foutais complètement. J'étais là, je suis comme ça, ça va. Et puis arrivé un moment, tout revient en pleine figure et c'est assez compliqué à gérer. Mais je pense qu'il faut savoir passer au-delà, même si c'est pas facile sur le coup. Faut juste arriver à écouter uniquement les conseils qui sont positifs pour toi et apprendre à s'aimer. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend en premier, ce qui est dommage.
Comment ça s'est passé pour toi, du coup, ce petit chemin pour essayer de retrouver un peu, te réapproprier un petit peu ton corps, être un petit peu plus à l'aise avec lui et tout ça? Est-ce que t'as peut-être des conseils à donner, ou toi, comment ça s'est passé?
J'ai pas vraiment de conseils. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours pareil, j'ai essayé de passer au-delà du regard des gens et de leurs critiques et de me dire, alors il y a des choses que j'aime pas chez moi, mais qu'est-ce que j'aime au contraire? Et ce que j'aime pas, est-ce que je pourrais le transformer en avantage? Par exemple, t'as un gros ventre, oui, bah c'est pas grave, ça veut dire que c'est plus confortable, ou enfin des petits trucs comme ça, c'est bête,
ouais.
Mais...
Non, t'as raison.
Se dire aussi maintenant avec tout ce qui est body positive sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tu peux trouver vite des comptes de filles qui ont une morphologie un peu comme la tienne et qui vont savoir se mettre en valeur. Et tu vas regarder ces photos, tu vas faire ah ouais, je peux m'identifier à elle, elle est belle, donc pourquoi moi je le serais pas aussi ?
Et complètement.
Ton regard commence à changer progressivement. Alors je dis pas que c'est tous les jours tu te regardes dans le miroir et tu te dis waouh, je suis super belle et tout. T'as toujours des petits jours où ça va être négatif, où tu vas te dire ah non, j'ai trop de ventre, j'ai trop de fesses, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Mais au final, il y a toujours un petit truc dans le coin de ta tête qui fait non, mais t'es trop ceci, t'es trop cela, mais elle aussi, et pourtant tu la trouves magnifique. Donc toi aussi t'es magnifique.
T'as complètement raison. Et c'est un beau message à faire passer. Après le lycée, du coup, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours ? Est-ce que tu as été en fac ? Tu nous l'as dit ici que tu avais fait des études supérieures. Comment ça s'est passé pour toi après le lycée ?
Eh bien, je suis rentrée dans une fac de droit sur La Rochelle et je suis rentrée aussi également dans une colocation avec 4 autres personnes que je ne connaissais absolument pas.
D'accord.
Et ça a été un peu la révélation. J'avais toujours été plus ou moins isolée depuis mon enfance, volontairement et involontairement.
D'accord.
C'était un peu bizarre, mais et là j'ai découvert un peu, on va dire, la vraie vie, la vraie liberté, et où je me suis dit ouais, je peux faire plein de choses, je suis plus en campagne, je suis en ville, il y a plein d'autres activités qui s'offrent à moi, j'ai rencontré plein d'autres gens, et j'ai trouvé ça génial en fait. Bon, la fac était c'était chouette aussi de découvrir quand même une nouvelle matière que t'as pas à l'école au final, parce que le droit c'est pas ce que t'as le plus souvent à l'école.
Oui, c'est
sûr. Super intéressant, super enrichissant, qui a mis aussi énormément de pression quand même dans ma vie et mon moral à rude épreuve. Mais c'était quand même super chouette de pouvoir faire ces premières expériences sans papa-maman sur le dos et en me disant bah, je décide pour moi maintenant et uniquement pour moi.
Dans ta colocation, du coup, tu as rencontré ton premier copain.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette relation et comment ça s'est passé ?
Alors c'était mon premier copain, ouais, et c'était une relation qui au final est allée assez vite parce que j'ai emménagé en septembre et en novembre on se mettait déjà ensemble en fait. Et...
D'accord, ah oui, ça a été rapide.
Ouais, j'ai eu l'impression que, comme ce que tu vois dans la télé-réalité, le côté enfermement décuple tout.
Oui.
Et en fait, ouais, je l'ai vraiment vécu parce que même si t'as la fac en dehors, tu te retrouves et on est toujours tous les 5 ensemble. On peut s'isoler dans nos chambres, mais on vit toujours ensemble. Et en fait, ouais. les relations sont très très vite introduites. Et on a toutes les deux flashé l'un sur l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça a été très fusionnel. On est resté presque 2 ans et demi ensemble. Et c'était chouette, même si bon, y a des choses qui m'ont pas plu.
Nous allons à présent aborder le sujet du viol conjugal. Je t'invite à avancer d'environ 5 minutes si c'est un sujet qui est sensible pour toi.
On peut parler justement d'un viol en fait que j'ai subi. Ça s'est produit plusieurs fois. Et...
D'accord.
Mais bon, actuellement j'ai du mal quand même à placer le mot viol dessus parce que je le ressens pas comme ça. Et j'ai pu lui en parler en fait de suite. Au bout de la 3e fois, je lui ai dit, je fais non, là c'est... J'ai vraiment l'impression que... J'ai eu la sensation que c'était un viol, je lui ai dit comme ça. Il s'est mis à pleurer. Il a...
D'accord.
Ouais. Sa réaction... en fait, je pense que sa réaction a tout fait aussi. C'est pour ça que je me sens pas, entre guillemets, victime.
D'accord.
Et que du coup, j'ai pu passer au-dessus facilement.
Ok.
Mais même si, bon, sur le coup, c'était pas forcément facile d'en parler, mais j'ai toujours eu ça aussi en moi, dès qu'il y a un problème, j'en parle, et c'est ce que j'ai fait, et du coup, ça s'est stoppé net, et voilà.
Mais c'est ce qu'il fallait faire, de toute façon, je pense que tu as eu la meilleure des réactions possibles. Est-ce que tu avais le sentiment que c'était pas un viol du fait que c'était dans votre relation, que ça se passait ?
En fait, on est obligé de le considérer comme un viol, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était... Ça va être très très précis, mais c'était dans mon sommeil en fait.
D'accord.
Et du coup, je pouvais considérer ça, que comme un viol parce que.
Bien sûr.
J'étais pas consciente, donc il n'y a pas de consentement quand t'es inconscient.
Évidemment.
Et ça n'a pas introduit non plus le. Comment dire la sensation que t'es en couple, tu dois quelque chose à la personne.
Oui, je vois très bien.
Okay. Je sais pas si c'est clair, mais...
Oui, oui, complètement, parce que du coup, t'as même pas eu le temps de dire oui ou non, quoi. C'était vraiment... il s'est approprié ton corps, d'une certaine manière.
C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que, aussi, j'ai tout de suite associé ça, en fait. Enfin, en tout cas, là, le ressenti que j'ai eu, c'était, oui, un viol. Et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé de suite, aussi, parce que c'était pas une discussion, c'était pas... je me sens redevable parce qu'il a été gentil avec moi, ou toutes les situations qu'on peut trouver de viol au sein du couple.
Tout à fait. Et comment du coup il a réagi? Tu viens de dire qu'il avait pleuré, donc ça veut dire qu'il a quand même pris conscience des choses, mais ça n'empêche pas qu'il l'ait fait. Donc comment lui il a reçu le fait que tu lui dises que tu te sentais violée?
Eh bien il l'a mal perçu par rapport à lui-même, en fait. Il s'est dit que c'était pas cool du tout ce qu'il avait fait, il a pleuré, il s'est excusé, il m'a dit qu'il voulait absolument pas me faire ressentir ça, enfin c'était vraiment bienveillant de sa part, enfin il a eu une réaction bienveillante, il aurait pu être dans le déni totalement en disant bah c'est pas vrai, enfin j'ai pas fait ça, et en fait si. Et notre relation a continué encore... je sais pas, je dirais peut-être un an après ça. Et à la fin de notre relation, quand on s'est séparés, je lui ai dit, par contre, là, je t'en ai parlé, mais tu refais plus jamais ça à une femme, en fait, que ce soit moi ou une autre. Et là, pareil, il a très bien réagi, il m'a dit que oui, et il était très ému.
D'accord. Bon, bah ça, c'est plutôt, entre guillemets, hein, bien passé. Dans le sens où il a pu quand même te laisser avoir ce statut de... Je dirais pas de victime parce que tu te sens... Est-ce que tu te sens victime, déjà?
Non, du tout.
D'accord. Mais ça peut-être que ça t'a aidé, du coup, à passer au travers de tout ça sans être trop traumatisée. Comment tu vis aujourd'hui avec ça?
Je vis bien. C'est... ça, je le vis plutôt bien. C'est plutôt la première expérience sexuelle que j'ai eue avec lui qui me marque le plus, en fait, parce que c'était pas...
D'accord.
C'était pas non plus agréable, c'est plus ça qui m'a marquée, même si c'était pas un viol en soi. J'étais pas à l'aise, enfin c'était un peu compliqué. C'est plus ça en fait qui me marque que, on va dire, le viol que j'ai subi après. Donc ça n'a pas eu d'impact ni d'influence en fait sur le reste de ma vie ou de ma sexualité.
D'accord, ok. Ok, bah de toute façon je pense que le plus important à retenir de ton témoignage, c'est que t'as eu le courage de lui dire et de stopper net tout ça. Ce qui est quand même très, très remarquable. C'est pas le cas de tout le monde, donc bravo à toi. Et ça ne peut que te permettre de te sentir pleinement responsable de ton corps et d'avoir de te sentir légitime, en tout cas, de dire non quand c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que
ça t'a aussi aidé à par la suite vivre une relation à ton propre corps et à ta sexualité la plus épanouie qui soit, je pense.
Oui, j'imagine. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai que le fait de se manifester, en fait, de faire entendre sa voix, tout de suite, ça prend une autre dimension et...
Ouais.
Et tu te sens plus légitime et tu sens que tu gardes le contrôle sur ton corps et que ça appartient pas à quelqu'un d'autre.
Complètement. T'as bien raison. On va changer un petit peu de sujet et on va parler de tout ce qui touche à ton avenir et à ton présent de cette période-là professionnelle. C'est très mal formulé, mais je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Tu m'as parlé du fait que tu avais parfois été angoissée de ne pas savoir où aller professionnellement et de ne pas avoir de projet. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça?
Oui, alors ne pas savoir où aller professionnellement, j'ai toujours l'impression en fait que dès toute petite, dès l'école primaire, on te met la pression sur... on te pose toujours la question quand t'es petite, tu veux faire quoi plus tard? En fait, on devrait dire plutôt mais... qu'est-ce que t'aimerais faire comme activité ou comme expérience dans la vie et pas comme travail. On base en fait ta vie sur la future activité que tu vas exercer, sur ta profession. Et en fait, je trouve ça tellement triste parce que oui, c'est une grande partie de ta vie, mais pour moi, c'est pas ça la vie en fait. Faut le prendre en compte, mais c'est pas ce qui doit mener ta vie. Et j'ai senti cette pression dès toute petite, et puis plus les années approchent, enfin, plus le bac approche, en fait, plus tu passes le brevet. Et puis là, on te dit, bon, faut que tu t'orientes sur soit un lycée général, soit un lycée pro. Et je trouve ça hyper tôt, en fait, de te dire, t'as 14 ans et on te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça te paraît mais tellement loin, en fait.
Ouais, vraiment.
Et puis pareil, arrivé au bac, on me dit, bon, bah après... Enfin, moi, j'ai fait un bac général et du coup, après, on m'a dit, Là, qu'est-ce que tu veux faire après? Il faut une fac, il faut un BTS, faut... Et là, tu as trop de possibilités qui s'offrent à toi. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et je suis partie en droit parce que ça me plaisait. Mais je pense aussi un peu par défaut parce que t'explores pas forcément tout quand t'es au lycée, au collège. T'explores plus tout ce qui est, on va dire, mémoire, culture, ce genre de choses. Et t'explores pas forcément tout ce qui peut être manuel, tout ce qui peut être passion, ce genre de choses. Alors que ça peut concrètement déboucher sur un métier. Et ce qui fait que maintenant je suis un peu perdue. J'ai fait une licence de droit et puis je me suis arrêtée là parce que je me suis dit déjà j'en pouvais plus. C'était psychologiquement arrivé à un moment, c'était trop de pression, trop de choses. Et ouais, ça, c'est un surplus. Et je me suis dit, ça me plaît, mais est-ce que je veux vraiment faire ça dans ma vie, en fait? Et je pense que c'est le cas de plein de personnes qui partent faire des études supérieures après un bac ou qui partent dans telle filière et qui se disent à la fin du compte, en fait, ça m'a plu, mais je sais pas sur quoi ça débouche. Et concrètement, je fais que apprendre des choses, mais je les mets pas en pratique, donc je sais pas si ça me plaît non plus concrètement. Et ça, ouais, je le ressens, mais je le ressens toujours maintenant parce que... Et c'est même source d'angoisse parce que quand tu vas voir ta mère et qu'elle te dit « Bon, du coup, maintenant, tu fais quoi? Et t'envisages quoi ?» Et là, tu te braques et tu... Ça te bloque, t'as un nœud qui se fait, c'est ça. Et tu dis, mais en fait, fiche-moi la paix avec ça, je veux vivre. Je veux pas une profession, je veux vivre.
Mais c'est vrai, je pense que j'ai l'impression que, surtout dans notre génération, beaucoup de personnes le ressentent, ça. Parce qu'on a vu que... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que le modèle sociétal, c'est vraiment, tu travailles toute ta vie, et avec le salaire que tu as à la fin du mois pour tout ce que tu as travaillé dans la semaine où tu as eu juste deux petits jours de repos rapidement, c'est là où tu peux l'utiliser pour, je sais pas, t'acheter une maison, t'acheter une voiture, aller en vacances une semaine ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est vraiment le travail qui régit toute ta vie, alors que c'est ta vie qui régit ta vie, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois, je trouve ça tellement frustrant de se dire, je vais passer 90% de mon temps à travailler pour gagner de l'argent, pour espérer pouvoir avoir une meilleure vie ou pour espérer faire des projets personnels et tout ça. Alors que du coup, vu qu'on travaille 90% du temps, on n'a pas le temps d'en profiter, tu vois. Donc je te rejoins vraiment sur ce truc-là et j'ai l'impression qu'on se pose de plus en plus la question.
Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que t'as le plus l'impression en fait de survivre que de vivre parce que tu vas travailler, comme tu dis, 90% du temps et 10% restant, dans les 10% restants, faut que tu manges, faut que tu dormes. Qu'est-ce qui te reste comme temps à toi? Alors, faut pas négliger le travail parce que c'est ce qui te permet de manger et de vivre et d'avoir un toit sur ta tête, etc. Mais je trouve qu'on lui accorde trop d'importance et en même temps, c'est légitime aussi d'y accorder trop d'importance parce que sans le travail, t'as rien. Enfin, c'est un cercle vicieux un peu, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est compliqué, je trouve, de tout concilier, en fait. De dire, je vais travailler et en même temps, je veux profiter du temps qui me reste. Mais le temps qui me reste, c'est une toute petite part, quoi.
C'est pour ça, je pense qu'on gagnerait vraiment à un petit peu plus promouvoir des fois les lycées professionnels, les passions des enfants aussi, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte à la fin de leur bac général qu'ils ne savaient pas où aller, alors qu'ils avaient des passions et qu'ils auraient pu faire des lycées professionnels en rapport avec ces passions-là et peut-être avoir un métier en rapport avec ce qu'ils aiment. Mais vu qu'on leur a pas dit, tu peux aller en lycée professionnel et c'est pas pour autant que t'as un mauvais niveau, c'est pas pour autant que c'est la dernière possibilité, que c'est vraiment ton propre choix. Si on avait vraiment eu ce genre de discours-là, peut-être qu'on serait pas là à pas trop savoir où aller, à pas trop savoir quoi faire. Peut-être même que toi, tu serais pas dans cette situation actuelle, je sais pas.
Je suis totalement d'accord avec toi parce que là où tu peux le plus t'épanouir en travaillant, c'est en travaillant dans ta passion.
Oui, complètement.
Et parce que du coup, tu n'as pas la sensation de passer des heures et des heures à t'acharner sur quelque chose qui ne te plaît pas, tout ça, pour manger à la fin du mois. Tu te dis, non, en fait, là, ce que je fais, j'adore ça. Et le bonus, c'est cool, je peux vivre de ça, je peux manger avec ça. Et du coup, tu profites en fait des 90% plus des 10% restants. Et du coup, tu vis ta vie à 100%. Ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais ça veut dire qu'au moins tu vis, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, en parlant de tout ce sujet, on a parlé aussi dans nos échanges de pression sociale. Et notamment du fait de suivre certains schémas. Donc, comme on le disait, avoir un boulot stable, être en couple, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on connaît, tout ce que la société idéalise. J'aimerais bien te demander, toi, dans quelle mesure ça t'a affecté, dans quelle mesure ça t'affecte, et est-ce que tu essayes de t'en détacher, de faire ton propre schéma ?
Bah, c'est la même chose, en fait, je l'ai ressenti depuis toute petite, où en fait, dans tous les médias, dans les films que tu vois, dans toutes les fictions que tu regardes, enfin, tout ce qui est culture, c'est ce schéma classique. Tu fais des études, t'as un boulot stable, tu trouves un copain, tu te maries, t'achètes la maison, t'as des enfants. Et c'est en même temps que j'ai arrêté mes études, où j'ai commencé, en fait, on va dire que j'ai un peu pété un boulon, et où je me suis dit, alors, ouais, c'est chouette, mais c'est peut-être pas ce que tout le monde veut, au final, et c'est peut-être pas non plus ce que je veux. Et je me suis dit, il y a des côtés de, on va dire, cette vie bien réglée qui sont intéressants et qui donnent envie, mais pas tout, Ben, je suis en couple actuellement depuis plus de 3 ans, donc bon, je rentre quand même dans ce schéma-là, mais je suis très heureuse à ce niveau-là. En revanche, acheter une maison, bah, j'ai pas envie. Avoir des enfants, j'ai pas envie non plus. Je dis pas que je changerai pas d'avis, mais pas pour l'instant, moment, c'est pas... quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas dans mes priorités. Et je me dis, je préfère, on va dire, vivre, vraiment m'éclater et faire toutes les expériences que j'ai à faire avant de me poser, quoi.
Complètement.
Si un jour j'ai envie de me poser, parce que ce sera pas forcément non plus le cas.
En plus, ouais, en plus. Et puis de toute façon, j'ai l'impression, encore une fois, je me répète, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, de cette pression d'avoir des enfants, par exemple. Moi, j'ai le sentiment que de plus en plus, certaines femmes se disent haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants et n'ont plus honte, de la même manière qu'on aurait pu avoir honte il y a quelques années. Moi, je me souviens que quand j'entendais des femmes dire « moi, je veux pas d'enfants », c'était... vraiment exceptionnel, quoi, et ça paraissait mais inconcevable, tu vois, alors que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, bah, de plus en plus, on commence à remettre un peu tout ça en question.
Ouais, alors on commence à le remettre en question, mais ça reste léger quand même, parce que j'ai des copines qui ont la trentaine passée, et qui ont dit, bah alors, un enfant, c'est que t'as pas trouvé le bon, c'est... enfin, des trucs comme ça. Alors effectivement, on fiche peut-être un peu plus la paix aux filles et aux femmes en leur disant « bon bah prends ton temps ». Et c'est assez contradictoire aussi, parce qu'on leur dit « prends ton temps, fais des études, trouve un mari et des enfants », mais en même temps, il faut que t'aies des enfants avant tel âge, et si t'en veux pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
Enfin, complètement.
C'est contradictoire, quoi.
On a encore du chemin à faire sur ça.
Mais c'est beaucoup de chemin. Tu l'as dit, c'est effectivement quand même, ça s'est débloqué, et heureusement qu'on nous met moins la pression maintenant avec ça, parce que c'est quand même hyper important. Et puis dans la société dans laquelle on vit, on devrait quand même avoir le choix de décider à quel moment tu veux faire des enfants et si tu veux ou pas, sans que les autres aient des réflexions à faire ou leur avis à donner, en fait.
Mais complètement, mais c'est de la même manière que tu t'habilles comme tu veux, tu fais le métier que tu veux, enfin voilà, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Faut qu'on se foute la paix, quoi, à un moment donné.
C'est ça. Après, je pense qu'on grandit aussi dans une société où on a la critique facile et on est entraîné dès tout petit à critiquer les autres. Alors bien après, il y en a qui le font en face à face et il y en a d'autres qui gardent ces réflexions dans le domaine privé pour pas heurter les personnes. Donc, faut trouver le juste milieu, quoi.
C'est clair. Mais bon, j'espère qu'on va avancer et que ça va un petit peu nous permettre d'être un peu plus libres et de se sentir légitime de faire ce qu'on veut avec nos corps, j'espère. On va changer un petit peu de sujet pour parler de quelque chose d'un petit peu moins joyeux, puisque comme tu le disais, à l'âge de 14 ans, tu as perdu ton père, ce qui a été assez traumatisant, même si, comme tu l'as dit, ton deuil s'est fait relativement rapidement, mais il y a eu le contre-coup, puisque c'est seulement à peu près 10 ans plus tard, si je ne me trompe pas, que tu as eu la capacité de l'assimiler et de vraiment commencer ton deuil. À cet événement-là, se sont mêlés à la fois le décès de ta tante et quelques semaines plus tard, ta maman a fait un AVC. Et c'est pendant ta L2 de droit que tout ça s'est passé. Donc déjà que c'était compliqué pour les études, puisqu'on est quand même sur une licence de droit, c'est pas simple. T'as vécu tous ces événements-là et ça t'a conduite à faire un burn-out qui a été entremêlé avec une dépression. J'aimerais beaucoup te demander comment t'as vécu tout ça.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période-là qui n'a pas dû être simple et comment tu as pu la gérer?
Ben, c'était une période, ouais, sur le coup, compliquée et en même temps... Je sortais d'une L1 de droit qui s'était super bien passée. En L2, j'étais avec des super copines et tout. Arrivé janvier, oui, il y a eu le décès de ma tante, l'AVC de ma mère. Et en même temps, il y avait toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « C'est bon, ça va, c'est un mauvais moment à passer, ça ira mieux après. » Et c'est rajouté à ça, ouais, un burn-out, où en fait, il y avait une surcharge de travail à la fac et où j'ai fait une dépression. En fait, ça, les deux ont... Je pense que le burn-out a entraîné la dépression. Mais moi, je trouve que c'est entremêlé parce que c'était... Je pouvais pas vraiment distinguer les périodes de burn-out et de dépression. Je pense que ça a fusionné un peu.
Ouais, complètement.
Et sur le coup, je savais pas quoi faire. C'est là où je me suis dit, je vais arrêter mes études. Et puis ma mère m'a dit, mais non, t'y es presque et tout, ça va le faire. Donc j'ai mené à bien ma L2, j'ai redoublé. Je l'ai eu plutôt facilement... Parce que j'étais toujours dans la même colocation, mais avec des personnes qui avaient changé, ça se passait mieux, j'ai rencontré des super copines. Et puis le fait d'avoir un emploi du temps allégé aussi, parce que j'avais validé quelques matières, ça m'a permis aussi de me relever. Et j'étais justement sous médicaments depuis le burn-out, quand j'ai décidé, 6-10 mois plus tard, on va dire à peu près, de les couper, parce que je me suis rendu compte que... que ça me convenait plus. Et puis, ça m'a fait prendre 15-20 kilos en 6 mois.
Des médicaments ?
Ouais. Et en fait, je pense que... Enfin, il n'y a pas que les médicaments. Je pense aussi que du coup, j'avais une alimentation, un mode de vie, du fait de la dépression, qui était beaucoup moins sain. Et
bien sûr.
Le tout a joué, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, je vais mieux. Et maintenant, c'est la prise de poids et les médicaments qui me rendent encore plus mal. Donc, je me suis dit, hop, on stoppe tout. On repart à zéro. Et je continuais quand même une thérapie avec un psychologue, donc ce qui me permettait aussi de ne pas être toute seule sans médicaments et de ne pas replonger, même si j'ai replongé un peu plus tard. Mais là, pour le coup, c'était plus un burn-out, c'était l'effet inverse, j'avais plus assez d'activité.
Donc un burn-out, non, ça s'appelle.
Je sais plus trop. Ah si, peut-être.
Je crois qu'il y a un terme comme ça qui signifie surtout le fait de trop s'ennuyer. C'est l'inverse.
Ouais, c'était tout à fait ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Tu fais une dépression à cause d'un burn-out. Maintenant, c'est l'effet inverse. Tu fais une autre dépression, mais ça va plus en finir, en fait. Et cette deuxième dépression a été compliquée aussi. Mais j'ai réussi, toujours avec le psychologue que je voyais, à remonter la pente, à en parler, etc. Et ça allait mieux. Et puis l'année dernière, il y a un week-end où j'ai fait un petit coup de déprime. Même si ça allait mieux, j'ai eu quelques jours où j'ai senti qu'il y avait possibilité en fait que je retombe dans la dépression. Donc je me suis dit stop, on arrête tout là, on se reprend en main. Cette fois-ci, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Je me suis dit, comme ça, je suis sûre. Peut-être qu'elle, elle pourra trouver des solutions qu'un psychologue ne peut pas trouver. Donc, j'ai fait une dizaine de mois de thérapie avec elle. On a parlé de plein de choses. Et elle m'a dit, bah, là, je pense que je suis arrivée à la fin et je vais vous orienter vers quelqu'un qui fait de l'EMDR. Et effectivement, l'EMDR, je pense que je ne ressens pas encore tous les effets maintenant parce que ça fait 2 mois que j'ai arrêté à peu près. Mais on sent quand même que ça travaille. Et du coup, c'était il y a 2 mois, et donc 10 ans après le décès de mon père, et où en fait, on s'est rendu compte que le deuil n'avait pas encore commencé ou était très très peu entamé. Et je pense que dans un coin de ma tête, je le savais. Mais ça fait bizarre aussi quand même de se dire, j'ai vécu des années en ayant l'impression que ça allait bien, que j'étais passée au-dessus, et au final c'est pas vrai, et 10 ans plus tard, t'as une claque qui te revient en pleine figure, et en même temps ça fait du bien parce que t'extériorises plein de choses avec le MDR, et tu revis vraiment les sentiments ou les émotions que t'as pu avoir le jour où ça s'est produit, et on te les archive en même temps. Et d'accord. C'est là où tu as l'impression que tu as un poids qui se déplace et qui, ça fait du bien, quoi.
Ouais, c'est,
mais bon, il n'y avait pas que ça non plus à traiter, parce que je suis de nature anxieuse, donc il y a plein d'autres choses aussi à traiter autour. Mais ouais, ça soulage et ça te donne envie aussi de te battre, de te dire, bon, là ça va pas, t'as un petit coup de blues, mais c'est temporaire, ça va passer, ça ira mieux. Après, c'est aussi dans ma personnalité de me dire... Oui, il y a des trucs qui sont chiants dans la vie, il y a des trucs qui font très mal, mais c'est un mauvais moment à passer, tu passes au-dessus, ça ira mieux, tu passes au-dessus, ça ira mieux, et puis t'avances petit à petit, quoi.
Ouais, complètement. Est-ce que t'étais... Déjà, avant toute chose, je vais donner une rapide définition de ce que je sais de l'EMDR. C'est de ce que je me souviens, parce que j'en ai fait un petit peu aussi. Ça se fait donc soit avec une psychiatre, soit avec une psychologue qui a la formation pour le faire. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui se joue surtout avec l'inconscient et un petit peu avec une espèce de... pas d'hypnose, mais y a ce truc-là qui joue avec les sensations, donc soit la vue, soit le toucher, tout ce qui... Voilà, toutes ces choses-là. C'est très mal défini, hein, vraiment.
Non, je trouve que c'est plutôt bien.
Globalement, c'est ça, de ce que je me souviens. En gros, c'est une thérapie qui est basée sur toutes les sensations du corps et qui va te permettre de te replonger un petit peu dans des souvenirs aussi pour, comme tu disais très bien, les archiver tout en les revivant. L'important, c'est que ce soit géré parce que du coup, on retrouve quand même des sensations qu'on avait oubliées, quoi. Donc ça peut être un petit peu perturbant des fois.
Mais oui, c'est tout à fait ça, en fait. Ça se joue, effectivement, c'est un mix entre de l'hypnose et je sais, moi, je ne saurais pas trop définir comme ça. Oui, c'est ça. Tu prends les sentiments, tu t'analyses tout ton corps, tu vois ce que ça te fait, et puis au fur et à mesure, on te l'archive.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai eu la sensation vraiment pour certaines émotions que, au fur et à mesure qu'effectivement, soit t'as la vision en fait qui va de droite à gauche parce qu'on passe le doigt devant l'œil, ou alors on tape en alternance droite-gauche sur tes genoux, tes mains, ce genre de choses. Effectivement, avec cette alternance soit de vision ou de toucher, t'as vraiment l'impression que les émotions diminuent ou se transforment à l'intérieur de toi. Tu les sens évoluer, en fait.
Ouais. Et c'est très efficace, d'ailleurs. Donc, si jamais ça intéresse des gens, je mettrai 2-3 liens ou 2-3 définitions dans les notes du podcast. Qui sait, ça peut peut-être aider.
Ouais. Même pour les traumas où on a l'impression que c'était pas grand-chose sur le coup, ça peut quand même être toujours présent en soi et il faut surtout pas hésiter à faire ça.
Oui, complètement. D'ailleurs, c'est fait pour, le MDR à la base, c'est vraiment pour les choses qu'on n'a pas réussi à assimiler, les traumatismes et tout ça, donc ça peut vraiment aider. Donc si jamais ça intéresse des personnes, rendez-vous dans la description et j'espère que j'aurai les liens adéquats. Donc comme tu le disais, la première solution que tu as trouvée par rapport à toute cette phase de dépression, ça a été les médicaments. Donc ensuite tu as choisi d'arrêter, de t'orienter plutôt vers un suivi psychologique et psychiatrique avec ce qu'on disait le MDR. Est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, quelles ont été les différences de traitement et les différents effets que ces traitements ont eu sur ta dépression, comment tu as vécu ces différentes thérapies entre les médicaments et le côté un petit peu plus psychologique avec le MDR. Quelle différence t'as vu entre les deux ?
Le premier traitement que j'ai expérimenté, c'était les médicaments. Je pense que les médicaments peuvent être nécessaires quand t'es arrivé à certains seuils où en fait tu vas tellement mal que t'as besoin en gros de bloquer toutes les émotions, de pas avoir d'émotions positives mais ni négatives. D'accord. En fait d'être neutre. Le temps d'entamer une thérapie avec quelqu'un pour, on va dire, te stabiliser psychologiquement et pouvoir revenir à un mode de vie sans médicaments progressivement. Ce ouais. que j'ai pas du tout fait, donc faut pas du tout suivre mon exemple. Mais ouais, je pense que ça peut être nécessaire. Après, je pense que si tu prends des médicaments sans traitement de fond, sans psychothérapie derrière, ça aura pas d'effet parce que ce qui te bloque, ce qui te gêne psychologiquement sera toujours là. Donc,
oui, ça sera pas réglé.
Et je pense que aussi les médicaments sont adaptés, mais peut-être pas à tout le monde non plus. Ça va. D'accord. En fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment, c'est une science en fait. Faut vraiment voir personne par personne. Après, faut pas avoir honte non plus de dire je prends des antidépresseurs parce que ça va pas, ou j'ai besoin d'antidépresseurs parce que ça va pas. C'est ça, je trouve que c'est aussi encore un peu tabou de.
Oui, complètement.
Tu vas voir un psychiatre, t'es un peu fou, ou tu prends des médicaments, il y a vraiment un gros truc qui cloche chez toi, quoi. Alors ouais, que pas du tout en fait.
Non, il y a vraiment une espèce de psychophobie ambiante ouais. Quand même, surtout en France. Moi je parle de la France parce que je connais pas les autres pays, mais c'est vrai que c'est pas très bienvenu et bien vu de dire qu'on prend des médicaments ouais. tels que les antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ça.
Ouais, j'ai le souvenir de ma mère quand elle était petite qui a fait justement alors je sais plus si elle prenait des antidépresseurs, mais c'est sûr elle a suivi une psychothérapie avec une psychiatre, et mon D'accord. père lui disait tu vas voir docteur Maboul, et en fait avec du recul c'est hyper violent parce que ouais. déjà t'es pas bien et en plus de ça on t'en rajoute une couche quoi. Et je trouve quand même que ça a un peu évolué, mais ça reste effectivement mal vu.
Ouais, complètement, c'est encore une fois des choses qu'il va falloir normaliser, mais de toute façon je pense que globalement ce qui manque surtout c'est de la bienveillance envers tout le monde, oui. parce que on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit la dépression tant qu'on l'a pas vécu, donc il faut aussi savoir entendre la souffrance de l'autre sans penser qu'on exagère ou ce genre de choses.
Et puis une petite chose pour une personne qui le vivra très bien peut être quelque chose d'énorme pour une autre personne où elle a l'impression que c'est insurmontable.
Complètement.
Tu peux pas juger non plus, t'as pas le même ressenti pour les autres personnes. Enfin, ouais.
Après, ça peut être difficile de le faire. Je pense que personne n'est parfait. Même moi, des fois, ça peut m'arriver de juger un peu trop vite ou voilà.
Ça nous arrive à tous, mais le tout, c'est de s'en rendre compte aussi, de se dire j'ai jugé peut-être un peu trop vite ou je suis pas parfaite. Et je peux aller m'excuser aussi auprès de la personne des fois.
Tout à fait.
Ça peut être bien ça aussi.
Ouais, ça peut faire beaucoup de bien.
Son ego de côté.
Oui, complètement, c'est vrai. Et de ton côté, c'est quoi que tu as préféré, entre guillemets, la thérapie médicamenteuse et psychologique ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la médicamenteuse, je ne vais pas dire que je l'ai préférée, je pense qu'elle était nécessaire, mais je ne l'ai pas préférée parce que ce n'est pas quelque chose qui, justement, vient traiter le fond du problème. D'accord. Je trouve que tout ce qui est psychothérapie avec un psychiatre ou de l'EMDR ou un psychologue ou toute autre sorte de psychothérapie sera toujours plus utile en fait, parce que vraiment on t'apprend déjà à pourquoi t'es comme ça, d'où ça vient, et on t'apprend aussi à le gérer, et des fois on t'exorcise entre guillemets, on t'enlève le mal-être, on va dire. Même si ça demande quand même ça peut être hyper épuisant, ça demande beaucoup de courage quand même. Et ça te demande aussi des fois de mettre pas mal ton ego de côté, parce que tu te prends des claques en pleine figure et on te dit mais là c'est peut-être de votre faute si la personne en face a réagi comme ça, ou si vous êtes dans cet état-là. Donc c'est pas toujours facile, mais je pense que une fois surmonté ça, tu peux plus te remettre en question et tu peux évoluer et avancer plus sereinement.
Ouais, complètement. C'est vraiment un traitement de fond en fait.
Ouais.
Je pense que c'est nécessaire de toute façon.
Oui, mais même pour chaque personne, au final, je me dis que chaque personne devrait peut-être entamer une psychothérapie, parce qu'on a toujours un petit truc qui nous bloque.
Non, c'est vrai. Mais c'est ce que je dis souvent, en plus, autour de moi, quand on parle un petit peu de ce sujet-là, je pense, et beaucoup de personnes pensent comme ça, que en fait, on devrait aller chez le psy au moins une fois par an, histoire de faire un bilan, tu vois. de se dire ok, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses à traiter, est-ce que voilà, quels sont les événements que j'ai un peu refoulés, tout ça. Et bon, le problème c'est que c'est pas remboursé par la sécu, c'est encore quelque chose je comprends pas. Oui, tout n'est pas remboursé, mais donc forcément ça ne permet pas à tout le monde de le faire, mais bon, si jamais les gens ont la possibilité de le faire, moi je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir un psy, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour faire un petit bilan et essayer de voir comment ça se passe.
Après, il y a aussi, je sais qu'il y a des associations où il y a des, il y a des aides qui sont possibles pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, faut pas hésiter non plus à se renseigner là-dessus, même si les infos sont dures à trouver.
Il faut
bien chercher des fois, mais ça peut valoir le coup. Je sais qu'il y a plein de, dans chaque grande ville on peut trouver, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a
les plannings familiaux,
il y a le planning familial, mais il y a aussi un autre service vraiment spécifique à la psychiatrie ou à la psychologie qui peut te permettre en fait en gros de faire un bilan et ensuite de voir vers quel professionnel t'orienter et éventuellement t'orienter vers un service où ça peut être en partie gratuit, ou alors tu peux avoir des aides. Enfin, il y a tout, il y a plein de choses comme ça. Je sais plus, je m'étais adressée à eux, mais j'ai plus leur nom en tête.
Bah écoute, je chercherai, et si jamais je trouve deux, trois petites choses, même si toi, t'as des liens qui te reviennent.
Ouais,
ou quoi,
je vais essayer de chercher ça.
Ça marche, bah écoute.
Et en parlant du manque d'informations aussi, je trouve que il y a du manque d'informations aussi pour s'analyser soi-même dès tout petit, en fait. Ça serait bien qu'on nous mette la puce à l'oreille et qu'on nous dise, bah écoute, quand dans telle situation tu réagis comme ça, c'est pas tout à fait normal, ça veut pas dire que t'es fou, ça veut peut-être juste dire que t'as un mal-être et que c'est comme ça que tu l'exprimes, et que tu devrais peut-être plus creuser là-dessus et que tu devrais aller voir quelqu'un. Et ça, c'est encore assez méconnu, je trouve.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a peur de... Oui, c'est vrai, mais je pense que t'as raison, parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être peur de mettre trop de questions dans la tête des enfants. Alors que non, en soi, hein, ce serait que bénéfique, je pense, mais il y a tellement de choses à changer. C'est un peu comme l'éducation émotionnelle qui manque un petit peu, je trouve. C'est un peu la même chose, en fait, hein, de pouvoir se dire, de permettre à un enfant d'exprimer ses émotions, de nommer ses émotions, sans qu'il y ait, je sais pas, la réprobation d'un adulte, ou sans qu'il se sente un peu gêné de vraiment exprimer ce qu'il ressent. Tout ça, c'est des choses qui manquent, donc... À l'avenir, si ça pouvait exister, ce serait pas mal.
Ouais, je suis d'accord. Mais je pense aussi que certaines éducations aussi peuvent... Si c'est un peu, comment dire, tabou à la maison, certains sujets, les enfants vont pas oser non plus poser des questions.
Bien sûr.
Ce qui va entraîner un peu un engrenage où, bah, du coup, tu sais pas comment exprimer tes émotions. Tu sais pas... Tu poses pas les questions parce que tu sais qu'on va pas forcément te répondre. Donc, au final, ça crée un peu... Je sais pas comment dire ça, mais...
Ben, ça crée des tabous.
Ouais, c'est ça, des tabous. Et puis tu te dis que c'est normal de pas en parler en tant qu'enfant.
Ouais,
Et puis tu te construis sur cette idée-là, ce qui est pas toujours bénéfique pour l'enfant, quoi.
Ouais, donc, complètement.
Très rarement.
Et puis, on a tendance aussi à invalider beaucoup la parole des enfants, hein, de prendre la parole de l'adulte comme forcément juste, alors qu'on va remettre en question celle de l'enfant. Ce qui n'aide pas, ce qui n'aide absolument pas.
Bah justement, j'ai écouté ton podcast là-dessus il n'y a pas très longtemps.
Ah, chouette.
Ouais, il y a 2-3 jours, et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est hyper important de leur donner la parole aussi, quoi.
Parce que podcast que je mettrai dans la description si jamais ça intéresse les gens.
Ouais, mais c'est des êtres en construction, et c'est important pour eux aussi d'avoir un droit de parole.
Ouais, complètement. Comment ça va, toi, du coup, par rapport à tout ça aujourd'hui? Tu nous disais que ta thérapie EMDR s'était terminée il n'y a pas longtemps, en mars de cette année, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Comment tu te sens aujourd'hui?
Je me sens mieux. Je sais que le temps joue énormément sur mon moral aussi, donc le soleil revient et ça va tout de suite mieux aussi.
Ouais, je suis pareil.
Ouais, mais je trouve qu'un brin de soleil et hop, ça t'illumine la journée et ça t'illumine le moral. Ça va. Je sais que la vie, c'est des hauts et des bas, donc faut accueillir les bas pas trop intensément, en se disant qu'ils vont passer, mais faut les accueillir quand même, en se disant c'est peut-être nécessaire aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je vais bien, parce que je me dis que ça dure pas, même si c'est pas toujours facile à vivre sur le coup.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ça ne peut que aller mieux maintenant, du coup.
Oui.
Donc je te le souhaite.
Ben, merci.
Tu m'avais dit pendant notre échange de mail que tu avais un projet, le projet de faire un tour du monde. C'était pour octobre 2020.
Ouais, c'est ça.
2020.
Ouais. Ouais, 2020. Ouais.
Donc forcément, avec la pandémie, ça n'a pas trop été possible. Comment tu l'as vécu tout ça? Comment tu as vécu le fait que tout s'annule, que ce soit pas possible pour toi de le faire? Et pourquoi tu voulais faire un tour du monde?
Alors, je voulais faire un tour du monde justement parce que j'avais une saturation des études et je me suis dit, avant de peut-être vouloir continuer dans mes études ou de redémarrer totalement une autre vocation professionnelle, on va dire, enfin un autre domaine d'études ou autre chose, je me suis dit, tu vas vivre un peu aussi pour toi, sortir de ta zone de confort et puis ça représentait aussi, on va dire, l'aventure ultime, quoi. J'ai ouais. toujours eu l'impression de m'ennuyer un peu dans cette vie bien réglée et je me suis dit, hop, tu le fais. C'était peut-être aussi une manière de fuir mes problèmes, mais bon, maintenant que la thérapie est finie, je les fuirai plus, je pourrais le vivre à 100%, donc c'est aussi pas plus mal dans un sens.
Ouais.
Mais ouais, c'était un moyen vraiment de vivre, d'expérimenter, sortir de ma zone de confort et ensuite me dire, je vais pas dire j'ai fait le tour de ma vie, j'ai fait le tour de...
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
De la question, mais me dire j'ai fait il y a une introspection supplémentaire qui a été faite et je peux repartir sur de nouvelles bases en peut-être sachant un peu plus ce que je veux. Et j'ai eu de la chance dans un sens parce que quand le premier confinement est intervenu, j'étais à un ou deux mois près d'acheter mes billets, de payer les visas et tout.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, j'ai eu du bol parce que ça m'a stoppé net. Et je me...
ouais.
Parce que sinon, c'était plein d'argent aussi gâché, mine de rien.
Ouais, c'est clair. Et tu voulais aller où?
Je voulais commencer par l'Asie. Je fais un tour du monde avec mon copain. Du coup, lui, le Japon, c'est sa destination rêvée. Et dans okay. un sens, moi aussi, parce que c'est une culture qui est totalement différente, donc j'avais vraiment envie. Après, je m'étais dit Chine, Laos et l'Inde. Moi, c'est l'Inde vraiment où j'ai vraiment envie. Et après, j'étais censée partir Amérique du Sud, Amérique centrale et finir par un petit bout d'Europe. Et je me disais, à chaque fois, un mois sur place, tout en me disant, si ça me plaît et que le visa le permet, je reste plus longtemps, voir si je trouve un job là-bas, je m'installe en fait. Je m'étais pas
ah
mis
oui.
la pression. Ouais. Je m'étais vraiment pas mis la pression. Et ce qui est bien, c'est que mon copain est dans le même état d'esprit que moi. On s'est tous les deux dit, il y a un coin qui nous plaît, on a la possibilité de travailler là-bas et de rester et d'y vivre peut-être plusieurs années. On tente le tout pour le tout.
Ah ouais, c'était vraiment un changement, un bouleversement
total.
Ah,
totalement, ouais.
C'est vraiment un projet de vie, en fait.
Oui, c'était vraiment un projet de vie. Et à partir du moment où je me suis intéressée à ça, en fait, tu trouves un blog sur le tour du monde, t'en trouves un deuxième, un troisième, et tu trouves des témoignages, et tu vois plein de trucs, puis après tu les suis sur les réseaux sociaux, et ouais. Ils te font des stories, et ils disent, là on est là, la semaine d'après tu vois, ils sont là-bas, et tu te dis, moi aussi je veux ça, je dis pas que je le ferai toute ma vie, mais je veux le faire, ne serait-ce qu'un petit bout de vie, quoi.
Ouais, et tu sais pas à quel point ça me donne envie aussi, hein, vraiment, ne serait-ce que t'entendre en parler, j'ai envie de partir.
je comprends. J'ai, en ce moment, j'évite de trop regarder tout ce qui est justement blog ou réseaux sociaux là-dessus, parce que ça me met, ça me frustre à un point,
ouais, c'est
en fait.
Frustrant.
Et puis l'avenir est incertain, parce que je me dis, je le décale au mois de septembre, là, mais sans vraiment trop d'espoir, en fait.
Moi, tu sais pas, tu sais pas.
Puis en plus de ça, tu peux partir dans un pays et 15 jours plus tard, ça change. Si c'est pour finir enfermé dans un hôtel, c'est pas non plus le but.
Ouais.
Je préfère attendre que tout ça se tasse pour vraiment faire le projet dont j'ai envie. Si on doit garder les masques, je m'en fiche, c'est pas un problème parce que je profiterai quand même. Mais je veux pas avoir tout ce qui est quarantaine, ce genre de choses.
Ouais, ça ferait vraiment de gâcher un peu ton expérience, quoi.
Ouais, même si ça fait toujours une expérience à prendre, mais ce sera pas la même chose, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et puis je l'ai tellement fantasmé, ce voyage, que du coup, si je faisais ça maintenant, j'aurais vraiment une énorme déception. Même s'il faut pas fantasmer non plus ces voyages, parce que du coup, tu
peux pas t'en empêcher, je pense.
Hein. Non, je pense que... Mais il faut être conscient, en fait, que tu fantasmes aussi. Si tu sais que tu fantasmes ton voyage, t'as un peu plus les pieds sur terre et tu sais que ça sera pas forcément comme tu l'as imaginé.
Bien sûr. Mais t'as raison, je pense qu'il faut pas le faire dans la précipitation parce que, comme tu dis, c'est vraiment l'avenir le plus incertain qui soit ces derniers mois et cette dernière année. Et j'ai l'impression que petit à petit, on commence à avoir un petit semblant de retour à la normale, entre grosses guillemets. Donc... T'as raison, prends ton temps, continue de mettre de côté parce que ça peut que être bénéfique pour ton projet. Et dès que tu sentiras que ce sera le bon moment, fonce quoi. Ça peut que être une bonne expérience de toute façon.
Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis même ce projet-là, sans pandémie, faut pas se précipiter non plus.
Bien sûr.
C'est un peu le projet d'une vie, entre guillemets. Pour certaines personnes, c'est réellement le projet d'une vie.
Non, c'est vrai.
Et je trouve ça super important pour pas le gâcher, en fait.
Ouais, complètement. Tu nous donneras des nouvelles si tu pars et tu me diras un petit peu par où t'es passé et tout.
Pas
je vais avoir des nouvelles.
Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais avec grand plaisir
faire. Je suis sûre que tu y arriveras. Franchement, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Bon, écoute, on a fait un petit tour de tous les sujets qu'on voulait aborder. C'est parfait. Je suis assez contente de tout ça. On va partir sur la troisième partie de l'interview avec les petites questions de fin d'épisode que j'aime bien poser un peu à mes invités. La première, que j'adore, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire ?
Déjà dans 5 ans, j'aimerais me dire que j'aurais fait mon tour du monde et que j'arrive à mieux appréhender les coups de mou, qui passent plus facilement, que ça coule un peu en fait, que ça glisse sur moi sans s'accrocher en fait. Ouais. Et me dire aussi, j'espère surtout que tu es toujours fidèle à toi-même et que tu vis vraiment la vie que tu as envie de faire et que tu te mets pas de barrière ou voilà, ce genre de choses en fait. Juste être toi à 100%.
Tu nous as parlé de ton tour du monde. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'avenir ?
Non, parce que pour moi c'était le départ d'une nouvelle vie et commencer à voir la vie un peu au jour le jour et pas forcément se projeter hyper loin.
Ouais, je vois. T'es vraiment ancrée dans le présent.
J'ai du mal. J'ai tendance à vivre un peu dans le passé. Mais plus ça avance, plus j'essaye de vivre dans le présent. Et de pas... En fait, je me suis toujours posé trop de questions. Donc maintenant, j'essaie de me dire, tu te poses des questions. Mais pour maintenant, pas si dans 10 ans, j'ai des enfants et qu'il est malade, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, c'est très schématique. Mais j'essaie de me poser des questions pour quand même faire des projets et des questions pour l'avenir. Mais... dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire quelques mois, voire un an quand même, parce que des fois, il y a des projets qui nécessitent un peu plus de réflexion, mais pas de me projeter, par exemple, pour ma retraite et quelle EHPAD je vais choisir.
Oui, c'est pas le moment, je pense.
Non, pas du tout.
T'as bien raison. Est-ce que tu peux dire que t'es heureuse aujourd'hui ?
Je pense que oui. Mais je pense aussi que c'est toujours... c'est un éternel changement, la vie. C'est... Là, ça va, tu te sens bien, t'es heureuse. Et demain, t'as un petit truc. Je dirais pas que t'es pas heureux, mais t'as un petit coup de mou et t'es peut-être un peu nostalgique du fait que bah, hier, ça allait mieux. Mais je pense que c'est ça aussi le bonheur, savoir que bah, tu vas bien, même si tu vas pas bien. C'est pas très clair, mais c'est ça, ouais. Te dire que je vais pas bien, mais en fait je vais bien parce que le pire est derrière moi, en gros.
Et puis pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutées, que ce soit sur les sujets dont on a parlé ou sur autre chose ?
Bah d'apprendre à s'aimer, c'est hyper important, que ce soit physiquement ou mentalement, pas se dévaloriser et faire ce dont on a envie, de prendre en compte la vie des gens qui nous sont vraiment proches et qui sont bénéfiques pour nous, pas des gens qui sont toxiques, et de faire son bonhomme de chemin en fait par rapport à soi, ses envies à soi, et d'abord être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec les autres.
Merci Isaline.
Bah, merci à toi Mathilde surtout.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.